Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute.
Bonjour Gilles Reynaud.
Oui, bonjour Julien.
Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2021, le podcast 2030 Glorieuse, il est soutenu par la NEF, qui est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, au salon Vivatech, et nous allons parler avec toi, Gilles, du comment allonger la durée de vie des objets, puisque tu es président de Ripper Café Paris. Plus largement, moi j'ai envie de parler avec toi de la place de la technologie dans nos vies et de comment reprendre le contrôle par rapport à ce que j'ai envie d'appeler là tout de suite notre dépendance matérielle. Mais avant ça, pour commencer cet échange, je pose toujours la même question. Imaginons, ça y est, les soirées reprennent, tu rencontres des inconnus qui te posent cette question qu'on entend à chaque fois lors des premières rencontres. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu leur réponds?
Qu'est-ce que je fais dans la vie?
Ouais.
J'essaie de me faire plaisir. J'essaie de faire des choses qui me font plaisir et de le faire pour moi, c'est-à-dire de le faire pas en prenant quelque chose à quelqu'un, mais en essayant de le faire collaborativement, d'impliquer d'autres avec moi, tout en comprenant que bon, j'ai pas toujours forcément les meilleures idées ou qu'un départ d'idée peut après être amené à évoluer et à avancer. Et c'est pour ça que je suis impliqué dans les Ripper Café aujourd'hui, parce que c'est une association de bénévoles à vocation donc d'apporter une activité gratuite, volontaire. Et c'est aussi un parcours personnel, hein, puisqu'il y a une trentaine d'années, j'ai par hasard commencé à faire du soutien scolaire dans un foyer pour des enfants qui étaient placés dans ce qu'on appelle l'ASE aujourd'hui, la DAS à l'époque. Et là, j'ai découvert que je pouvais être utile. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, puis ça m'a permis aussi de faire du bien et puis de me sentir à proximité aussi d'enfants dont la situation me parlait. Et ainsi de suite. C'est comme ça que ça a pu démarrer, de faire des activités bénévoles et de pouvoir en fait se dire que finalement on n'a pas forcément besoin d'avoir de gros moyens, mais on a besoin d'avoir de la volonté et on a besoin d'avoir plus des gens, des personnes, des individus, de la mobilisation que vraiment des moyens comme des locaux, des outils, des technologies, etc. Voilà.
C'est intéressant parce que tu nous dis tout de suite que donc tu as remis la boussole au cœur de ta vie, celle du bonheur, et tu lis le bonheur avec l'envie de te décentrer, de te mettre au service d'une cause qui te dépasse. Pour toi, c'est lié. L'engagement
oui,
et
pour moi,
suscite
c'est lié.
Le bonheur.
Sans faire des bouffées délirantes d'ego. C'est important de se sentir utile et c'est important de se sentir appartenir à un groupe, à une activité et tout en restant pragmatique. On ne va pas non plus considérer qu'une certaine idéologie, qu'une certaine activité priorise sur la volonté des gens. Et c'est aussi une chose qui me plaît particulièrement dans notre activité Ripper Café. C'est aussi ce fait de dire voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire Et ensuite, on essaie d'y aller. Et on essaie d'y aller parce que ben, on a nos moyens, on a nos capacités, on a nos disponibilités en tant que bénévole. Et on voit et on essaie de faire des activités autant que possible. Par exemple, actuellement, on a essayé une activité de réparation à distance qui n'est pas forcément très aboutie, qui ne fonctionne pas forcément, mais au moins, on a essayé.
On en reparlera, l'Académie, hein, je l'ai vu sur votre site internet.
C'est autre chose qui s'appelle le Click et Répare.
Ok, super.
On a la Repair Academy, on a la téléréparation et on est allé encore un petit peu plus loin qui s'appelle Click et Répare.
Super. Mais là, dans l'histoire que tu viens de commencer à nous livrer, il manque un lien parce que du coup, tu nous dis qu'il y a quelques années, il y a même des décennies en arrière, tu te mettais au service des plus jeunes pour le rattrapage académique. Et là, aujourd'hui, j'étais face à moi et tu es président des Repair Café Paris. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagé dans ce secteur-là en particulier ?
Alors, donc, j'ai fait de l'activité bénévole quand j'étais étudiant, j'essayais en fait de faire en sorte qu'on puisse s'entraider, se soutenir entre étudiants, pas être en concurrence. Donc, réviser ensemble, travailler ensemble. Pallier à l'absence de certains supports qui étaient utiles ou nécessaires pour certains à progresser, hein, vraiment cette vision personnelle. Le fait qu'un jour je me suis retrouvé face à un PC dans les années 90, déjà aujourd'hui c'est pas si simple, mais il y a 25-30 ans, c'était encore moins marrant dans le sens où c'était assez frustrant. On avait des machines qui faisaient ce qu'elles voulaient et pas forcément ce qu'on voulait en faire. Donc j'ai commencé à me documenter, à tester, à progresser, puis donner un coup de main naturellement hein, en liant ça. Et puis après être actif, pas mal actif sur les forums d'entraide informatique. C'est d'ailleurs comme ça, au début des années 2000, que j'avais rencontré ma compagne, qui est devenue mon épouse et la mère de mon fils.
C'est vrai, incroyable.
Donc bien avant toutes ces applications et tout ça, hein, elle est arrivée, elle a débarqué sur le forum sur lequel j'étais assez actif, et elle a demandé, on m'a donné une carte son, comment je fais pour l'installer sur mon PC, et puis on s'est connus, puis on s'est vus, et puis voilà. Le reste, c'est de l'histoire. Donc c'est cette volonté de partager la connaissance, de rester curieux, de me dire que si moi je suis curieux, d'autres peuvent l'être également. Et il y a une forme de partage, d'effet de groupe, de synergie en fait, dans le fait de se réunir, de se retrouver, de partager, d'avoir envie d'aller plus loin, d'avoir envie de comprendre, de faire des install parties de Linux, de faire... des gens et puis un jour en 2015 j'ai appris l'existence des Repair Café et j'ai participé à un Repair Café qui était juste à côté de chez moi à Paris et qui était donc accessible à pied. J'y suis arrivé avec mes outils puisque je réparais déjà des ordinateurs et tout ça et puis on m'a dit tiens installe-toi. Je me suis retrouvé entre quelqu'un qui réparait de l'électroménager et un autre qui faisait je me rappelle plus quoi à ce moment-là, mais en tout cas ce qui m'a plu c'est non seulement le fait d'être utile pour dépanner des personnes qui apportaient leurs objets, le fait que ces personnes-là ne les jettent pas et puissent donner en fait une existence prolongée à ces objets-là, mais également le fait que entre réparateurs et autres bénévoles de l'association il y avait une certaine camaraderie, une certaine volonté d'être là, d'être ensemble, de passer du temps, de s'apprendre des choses. J'ai appris des choses, par exemple, sur des grille-pains. Alors que je n'avais jamais démonté un mixeur de ma vie, je l'ai fait pour la première fois alors que j'étais venu réparer des ordinateurs ou installer des logiciels. Donc, c'était ça aussi qui m'a intéressé. C'est toujours cette curiosité, cette volonté d'aller plus loin et de faire autre chose, quoi.
Et c'est là où on voit le prétexte de la machine comme, en l'occurrence, soit quelque chose qui permet d'élever les consciences, l'intellect, mais aussi de créer du lien entre les gens. Le Repair Café, pour le dire très simplement, et tu compléteras ma présentation succincte, c'est un lieu qui, en général, peut être éphémère, tournant, animé par une association locale qui permet, le temps d'une demi-journée, une journée, de manière assez récurrente, de réparer des objets. Et donc, quand je dis objet, c'est très, très large. Hein. Ça peut être, j'ai vu des fours, j'ai vu des ordinateurs. Moi, j'y étais allé avec ma bouilloire à l'époque, mais aussi des vêtements. Ça peut être vraiment de tout. Hein.
Et alors là, on parle des objets, mais il faut parler aussi des activités. Donc, les Repair Café, c'est un événement qui peut être récurrent, comme tu disais, hein, même lieu, même endroit, même heure. Régulièrement. Ça peut être aussi des événements plus ponctuels avec des échelles plus ou moins grandes. Hein. On peut accueillir 10 participants, on peut en accueillir 100, 200, tout est possible. La question, c'est surtout déjà de relever le niveau de conscience du déchet. Qu'est-ce qu'un déchet ? Dans le sens où, quand on se débarrasse d'un objet, eh bien, on n'a pas terminé. Même si on a l'impression que quand on s'en est débarrassé, c'est pas fini. Donc ça, c'est vraiment essentiel dans la mission des Repair Café, ou en tout cas dans notre prise de conscience et notre volonté d'agir. C'est très important pour nous.
Oui, puis en plus, souvent, ce qu'on voit comme un déchet, en fait, n'a même pas une panne. C'est souvent un défaut d'utilisation, un peu de poussière, un mécanisme mal enclenché.
Ça peut être simplement de l'usure, ça peut être un défaut vraiment mineur qui peut se réparer sur une petite intervention, même simplement une réparation d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand on parle d'objets industriels, on va parler d'ordinateurs, de bouilloires, etc. C'est vrai que toutes les pièces sont fabriquées, sont préfabriquées par les sous-traitants pour être assemblées en usine. Donc, une pièce cassée, bon, on peut éventuellement pallier à cette pièce en trouvant une solution qui permet de conserver la fonctionnalité de l'objet, même si la pièce cassée ne permettait pas, par exemple, de le faire fonctionner. Et donc, au niveau des activités, on va avoir de la couture, de l'électronique, de l'électroménager, de l'informatique. On a même eu, alors on n'en fait plus maintenant, mais c'est faute de disponibilité de réparateurs ou de lieux, etc. Mais on a fait des réparations de chaises, on a fait des tas de choses différentes. On fait de la réparation, de la co-réparation et de l'auto-réparation. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la réparation, vous amenez l'objet au réparateur. Le participant qui amène son objet reste là et est présent pendant la réparation. Et très souvent, spontanément, la personne donne un petit coup de main. Elle va tenir l'objet pour aider à l'accès aux vis pour pouvoir démonter, etc. Après, la co-réparation, c'est quand on a en fait des réparateurs qui accompagnent un certain nombre de participants qui vont réparer tous ensemble. Et puis, dans cette idée un peu d'émulation, mais la personne est active. Et puis, l'auto-réparation, on a carrément une personne qui vient, on lui prête des outils, elle est assez autonome et puis on essaie de l'aider, on essaie de voir si tout se passe bien, lui donner un petit peu de méthode parce que c'est relativement simple de démonter, mais il faut penser qu'à un moment ou un autre il faudra remonter, et puis remonter ça se fait dans un certain ordre parce que très souvent quand on pose la dernière vis et qu'on s'aperçoit qu'il en reste une, très souvent c'est la fameuse qui était à poser 3 ou 4 ou 5 étapes avant, et là devoir tout démonter, c'est pas toujours facile. On a aussi des activités avec des enfants, les Repair Café enfants. Et alors là, c'est vrai que le but n'est pas forcément directement de réparer, mais de bien sensibiliser aussi les enfants. Réparer, c'est pas difficile, c'est facile, c'est accessible. Deux, les enfants, ils sont encore plus curieux que nous, les adultes. Et ça, c'est génial. Moi, j'ai personnellement été étonné par la curiosité de mon fils. Un jour, dans un Repair Café enfant, on a démonté un disque dur ensemble et il était tout fier de voir comment ça fonctionnait, ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puis moi, j'essaie de lui expliquer la tête de lecture, les disques, le moteur, comment ça marche, ça tourne, à quoi sert le petit village. Le petit village, ce sont en fait les composants sur le circuit imprimé qui est à côté, etc., etc. Donc en quelques mots, voici ce que c'est que le Repair Café. Le Repair Café, c'est dire ne pas jeter. Et ne pas jeter, c'est souvent pas grand-chose. C'est souvent un câble à rebrancher, c'est souvent une petite résistance qui coûte 1 euro que la personne donc peut se payer. Et puis c'est aussi de considérer que sur pas mal d'objets du quotidien, on va prendre l'exemple un peu bateau, c'est le grille-pain. Hein. La technologie du grille-pain, je pense pas qu'elle a évolué depuis 50 ans, basiquement, c'est à peu près la même chose. Mais un grille-pain, tout simplement, dont la poignée ne tient plus en place et qui donc ne peut plus fonctionner, ça peut être pas grand-chose à réparer. Voilà. Un des derniers Repair Café que j'ai fait, le réparateur a passé 1h30 à démonter la machine pour découvrir que c'était une petite résistance qui avait grillé. C'était quoi ? Je crois que c'était un mix soupe ou quelque chose comme ça. et une petite résistance de trois fois rien qui pouvait être changée facilement, quoi.
Oui, donc c'est ça, parce que là tu touches quelque chose du doigt qui est intéressant, c'est que effectivement on voit l'impact écologique, là tu l'as mentionné, c'est allonger la durée de vie des objets qui ont envahi notre quotidien. J'ai quand même préparé quelques chiffres pour que les personnes qui nous écoutent se rendent bien compte du fait qu'on est entouré d'objets. Il y a par exemple, quand on demande aux gens combien d'objets électroniques vous avez chez vous, ils répondent en moyenne une trentaine, alors qu'il y en a pas loin de 99, dont 6 qui ne servent jamais. Il y a 44% des produits électriques et électroniques qui sont en panne, qui sont seulement réparés, donc plus d'une moitié qui est jetée directement. Et ce chiffre-là aussi, on parlait d'ordinateur tout à l'heure, ça m'a saisi. Depuis ma naissance, donc depuis 1985, la durée d'utilisation d'un ordinateur, elle a été divisée par 2, passant de près de 11 ans à 5 ans. Donc on voit que à la fois on a toujours plus d'objets et qui ont une durée de vie de plus en plus courte et qu'on fait souvent même pas attention, on les jette directement dès qu'il y a un problème. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et les Repair Café, à l'opposé de cette réflexion économique, elle dit, en fait, on est gratuit. Venez.
Oui, gratuit, bénévole, exactement. Et puis, on va avoir tout type de participants, des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se racheter le produit qu'ils ont amené au Repair Café. On a eu une étudiante un jour qui est venue avec son aspirateur. C'est simplement le câble enrouleur qui avait fini par décrocher le connecteur. Donc, c'était pas grand-chose, mais elle n'avait pas les moyens, ni les outils, ni les connaissances, ni la visibilité de se dire comment je me projette pour réparer ma machine.
Ouais, c'est ça. Donc c'est économique.
C'est économique, c'est humain. Le précédent président des Repair Café, qui est toujours administrateur et bénévole Repair Café, disait souvent c'est de l'amour par la réparation. Donc c'est ça aussi, c'est rendre service, c'est faire comprendre aux gens qu'il y a des gens qui sont prêts à passer leur samedi après-midi avec eux, avec des étrangers, des inconnus, dans un Repair Café pour donner un coup de main. Je suis vraiment convaincu que l'effet d'entraînement des Repair Café est essentiel, parce que ça fait changer les mentalités. Ça fait changer les mentalités des réparateurs, des participants, des pouvoirs publics. Ça fait parler de la réparation, ça fait parler des déchets. Les déchets, on n'a pas envie d'en parler. On n'a pas envie de savoir ce qui se passe une fois qu'on a jeté un truc. Franchement, c'est sale, c'est pas marrant. C'est...
En tout cas, notre société, elle est organisée pour que le déchet, dès qu'on l'a mis dans le sac noir, dont on ne voit rien, ce qui se passe à l'intérieur, ensuite on arrête d'y penser. Donc enfouissement ou brûlé ou dépecé, en fait, non seulement on ne le sait pas, mais en plus on fait tout pour qu'on ne le sache pas. Donc
c'est
effectivement
ça.
Le déchet.
Et puis surtout qu'on ignore aussi le coût que ça représente. Parce qu'il y a ce rapport entre prix et valeur. Je disais donc le grille-pain, ça a pas évolué le grille-pain, mais en même temps. Racheter un grille-pain à 10 euros, 15 euros, je ne sais pas exactement combien ça coûte aujourd'hui, mais racheter un grille-pain, qu'est-ce que ça va représenter de jeter et de traiter le déchet que représente le grille-pain dont on s'est débarrassé, qui éventuellement pouvait être réparé, récupéré, ou au moins permettre de faire un stock de pièces pour pouvoir récupérer certaines pièces pour réparer un grille-pain similaire.
Sans compter les matières premières du nouveau grille-pain qui, lui, va en fait, pour un poids de 1 kg, 2 kg, 3 kg, va avoir besoin de dizaines de kilos d'extraction pour arriver à la construction. En plus,
l'énergie,
les transports,
etc.
Bref, c'est fou. Donc, c'est écologique, c'est économique. Tu as commencé à le dire, c'est aussi vecteur de lien entre les êtres humains. Et je l'entends aussi dans ce que tu dis, en filigrane, c'est aussi vecteur de lien à soi-même, parce qu'on regagne une autonomie. On se rend compte déjà de la complexité du monde et à quel point on nous a dépossédé un peu de ce contrôle, mais on regagne aussi en autonomie, parce que les prochaines pannes qu'on verra, en fait, on aura le réflexe soit d'aller au Repair Café, soit nous-mêmes de commencer à regarder. Et c'est pour ça que, et là je veux bien qu'on revienne sur l'accompagnement à distance, vous accompagnez aussi un petit peu, vous essayez d'encourager cette autonomie encore plus loin.
Oui, on fait, pandémie oblige, et confinement et vidéo, visioconférence, donc on a mis en place, et c'est justement un des bénévoles qui a mis en place et qui a structuré ça avec d'autres bénévoles, pas tout seul, mais en même temps, ça part toujours de quelqu'un, puis après ça continue et on y va tous ensemble. Donc de téléréparation, Alors, sur la télé-réparation, on fait ce qu'on peut pour le gérer, pour éviter d'être submergé, parce qu'on ne peut pas avoir simultanément 100 réparations. Et on met en place des séances de télé-réparation régulières toutes les semaines. Mais là encore, c'est vrai qu'en fait, on va accompagner des personnes qui, à distance, sont en train de réparer elles-mêmes leur objet. Avec les limites que ça comporte, hein, le fait d'avoir des outils, le fait de ne pas avoir trop peur de mettre les mains dans le cambouis. On a eu dernièrement, par exemple, une personne qui devait changer le joint de son lave-vaisselle. Bon, au bout d'un moment, elle a dit « Non, écoutez, là, je maîtrise plus, je suis trop inquiète de faire ça. Si après, je le mets en marche et que ça fuit, voilà, bon. » C'était légitime. Et puis après tout, c'est sa réparation. Donc elle, mais... Voilà, on l'accompagne et ça nous a permis aussi d'aller au contact d'autres réparateurs en Belgique, dans toute la France, des francophones, donc qui on parlait des mêmes choses et puis on allait discuter ensemble pendant peut-être.
Oui, parce que le Repair Café, c'est un mouvement national, enfin international, pardon. Il y en a des centaines partout.
Oui, c'est ça. Il y a une fondation en fait aux Pays-Bas qui a démarré en fait le mouvement des Repair Café. À laquelle donc les fondateurs de Repair Café Paris se sont rattachés en 2013. Repair Café Paris a été fondé en 2013 en reprenant en fait toute l'expérience existante dans l'organisation des Repair Café, tout l'outillage, le fait aussi, et ça c'est central au Repair Café, nous avons une charte de réparation une charte des Repair Café qui est vraiment fondamentale et qui définit un, quelles sont nos valeurs, et deux, quelles sont nos activités et qui déborde, qui rappelle déjà que notre principe c'est de ne pas jeter. Et ne pas jeter pourquoi ? Ben, pour préserver l'environnement, pour préserver l'espèce humaine. Parce que c'est ça aussi, hein, les déchets qu'on va retraiter, la pollution que ça cause, c'est ce qu'on va respirer, c'est ce qu'on va retrouver dans notre eau, c'est ce qu'on va retrouver sur nos plages, etc. Et puis ce fondement d'une activité bénévole et
donc
gratuite.
On retrouve pas loin de 300 Repair Café en France. Il y a beaucoup de groupes, de pages Facebook qui se sont créées, donc les personnes qui nous écoutent pourront sans doute en trouver un à côté de chez eux, à côté de chez elles. Et il y a le site Repair Café France où il y a là une géolocalisation avec une carte qui est assez bien faite où on peut retrouver aussi un peu tous les Repair Café. Juste pour terminer très rapidement, parce que j'ai vraiment absolument envie de partir en 2030 glorieuse avec toi, Gilles, est-ce que tu peux du coup nous dire, tu nous as parlé de la télé-réparation, parce que je sais qu'il y a aujourd'hui, j'ai utilisé iFixit, j'ai utilisé SoSAV, il y a des sites internet comme ça qui permettent d'avoir des tutoriels de réparation à distance. Vous travaillez aussi un peu dans ce sens-là et donc vous accompagnez à l'autonomisation grâce aux outils techniques en fait. Technologique.
Oui, sur le site web Repair Café, vous avez accès aussi à ce qu'on appelle la Repair Academy, qui est en fait une base de tutoriel. Puisque l'association, quand elle a été créée, on est parti de l'existant, qui était relativement peu à l'époque. Alors il y avait iFixit déjà, mais iFixit beaucoup sur le matériel informatique et en particulier sur les produits Apple, mais c'était quand même relativement limité. Puis après c'était compliqué d'avoir en fait des manuels, d'avoir surtout des manuels de démontage, tout ce qu'on va en fait trouver très 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 souvent dans les centres de SAV, enfin que les techniciens vont avoir dans les centres de SAV pour savoir comment correctement démonter une machine et la remonter correctement. Et c'est vrai qu'on a commencé donc à mettre en place un certain nombre de tutoriels pour expliquer comment démonter, comment identifier à partir d'une panne, comment pouvoir en fait gagner du temps sur l'identification du problème et la détection de la panne.
C'est là où tout se joue en général. Voilà. Ouais, tout à
donc,
fait. Et donc ça, on le retrouve
sur
le
site
internet.
Repair Café Paris à la Repair Academy.
Bon, on pourrait continuer cette interview pendant 25 minutes, je suis désolé, je suis frustrant et frustré parce que j'ai envie d'accélérer et je vois le temps qui passe. On va continuer, nous, à parler des Repair Café, mais de leur place en 2030 glorieuse et de notre relation à la technologie. Avant ça, on fait cette petite pause où je demande à chaque invité de venir avec une bulle d'inspiration à travers la littérature. Je suis persuadé que dans la littérature, dans tous les livres autour de nous, il y a des fenêtres vers les 2030 glorieuses par plein de valeurs qui sont véhiculées dans ces histoires qui nous entourent. entourent et qui nous accompagnent. Et toi, Gilles, tu es venu avec un livre particulier. Lequel est-ce ?
C'est un petit essai d'Étienne Klein qui est paru au milieu de l'année 2020, de l'année dernière, qui s'appelle « Le goût du vrai ». Et où Étienne Klein nous parle du rapport entre vérité, réalité, science, comme il le fait. Enfin, si certains connaissent Étienne Klein, ça vous parlera tout de suite. Mais donc, c'est cette capacité à parler de science de façon très concrète et très quotidienne. La faute à Galilée. Galilée a taillé un vêtement d'idées dans l'infinité ouverte des expériences possibles, mais il s'est comporté en couturier despotique. Il a décrété que le réel ne portait pas d'autre vêtement que celui-là. C'est une citation d'Edmund Husserl. Donc Étienne Klein nous dit « Entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'applaudir la science à tout rompre, ni de régresser dans le scientisme. Même indirectement, la science a une part de responsabilité dans la situation que nous avons créée. Car l'émergence de la démarche galiléenne, l'homme s'est progressivement autonomisé par rapport à l'univers qui l'entoure jusqu'à se considérer, René Descartes aidant, comme un être d'anti-nature. Non pas au sens où il serait opposé à la nature, mais où il participe d'une essence différente. Il serait métaphysiquement autre. Cette coupure-là a constitué un aiguillage discret, mais décisif, qui a orienté la suite de l'histoire. C'est avec Galilée que l'idée d'une nature considérée comme assemblage de corps matériels réellement séparés et fermés sur soi s'est véritablement imposée. En somme, la nature s'est séparée d'avec le reste, entre guillemets. Le monde s'est comme dissocié. D'un côté, la nature, appréhendée sous le seul angle physico-mathématique, de l'autre, l'homme, renvoyé à lui-même, à la solitude de sa raison et de ses affects. Ainsi se résume la grande originalité de la pensée occidentale. Aucune autre société humaine ne cohabite avec le monde non humain. Prise au sens large, sur le mode de la séparation. Les ethnologues et les anthropologues l'ont constaté depuis longtemps, nulle part ailleurs qu'au sein de l'Occident moderne, les frontières de l'humanité ne s'arrêtent aux portes de l'espèce humaine. S'y trouvent inclus les plantes, les arbres, les animaux, bref, tous ces corps associés que nous reléguons, nous, dans une simple fonction d'entourage, n'y voyant que le décor de nos existences, des ressources disponibles, à portée de main. Or, la pandémie de Covid-19 nous a montré que la nature conserve un pouvoir sur nous, un pouvoir impossible à contourner. Alors que des technoprophètes annonçaient notre imminente libération des soucis liés à la matérialité de notre corps grâce aux nouvelles technologies, le petit coronavirus est venu cruellement nous rappeler notre « socle biologique », entre guillemets. Et pendant de longues semaines, au lieu de courir le monde nous rendre encore un peu plus comme maîtres et possesseurs de la nature, nous avons dû sagement rester chez nous, nous confiner comme faisaient nos ancêtres. Au terme de ce tract, il est temps de tenter un bref bilan, forcément ambivalent, car la science présente un double visage. C'est grâce à la séparation que nous avons installée entre nature et culture que notre science est devenue si efficace et si conquérante. Mais c'est à cause de cette séparation que la nature, finalement traitée comme si elle était à notre seule disposition, s'est peu à peu abîmée. Sans vergogne, nous l'avons marquée d'une empreinte irréversible, oubliant qu'elle était poreuse, réactive, non infinie, fragile. Dès lors, faut-il suivre le philosophe Michel Henry, pour qui Galilée représente symboliquement l'idéologie de la barbarie ? Je ne crois pas, car ce serait confondre les enseignements des sciences avec ce qu'ils rendent possible, c'est-à-dire liquider l'esprit de la science au seul motif d'un mauvais usage du monde. Les ivresses de l'hubris nous ont conduits à nous croire au-dessus de la nature. Cette dernière nous rappelle aujourd'hui que nous en sommes partie intégrante, que notre essence n'est pas si transcendante. Cela posé, est-ce en renonçant aux avancées de la science ou en ultra-relativisant ses vérités que nous réparerons les dégâts que nous avons commis ? Est-ce avec la physique d'Aristote que nous stabiliserons le climat, avec la médecine d'Avicenne que nous parerons aux attaques du coronavirus et de ses successeurs, avec la biologie de Pline l'Ancien que nous préserverons la biodiversité ? Plutôt que de délaisser l'idée de rationalité, il me semble plus judicieux de la refonder, afin qu'elle ne puisse plus servir d'alibi à toutes sortes de dominations. Car tel est le paradoxe de l'être humain, s'il est seul capable, par la science, de découvrir les lois dites de la nature, il n'en est pas pour autant un être d'antinature. Thank you.
Merci Gilles, il n'y avait encore personne qui avait lu du Étienne Klein, et c'est tout à propos.
L'heure hyper café à la base, c'est ça, c'est de se resituer dans un tout et de se dire finalement qu'est-ce qui se passe, quelles sont les conséquences de mon comportement et de mon comportement inconscient au quotidien. Tu parlais du nombre d'objets qu'on a chez nous, du nombre d'objets qui ne fonctionnent pas ou qu'on n'utilise pas, qu'on a acheté, qu'on a mis sur une étagère ou dans un placard. Voilà, c'est ça. C'est cette conscience de notre capacité en tant qu'individu d'agir et d'agir dans un tout.
Bah justement, nous agissons dans un tout puisque ça y est, nous sommes en 2030 glorieuse, dans 10 ans, alors qu'on pensait que changer radicalement la voie de l'humanité allait être... j'allais dire impossible, mais sans doute une tâche trop lourde pour l'humanité. Nous avons réussi à regrouper nos forces, nos intelligences et à drastiquement modifier nos modes de vie. Je ne dis pas qu'en 2030 glorieuse, tout est facile, tout est gagné et que la vie est merveilleuse, mais on sent clairement qu'il y a eu un vrai revirement au service du vivant. Nous allons faire un exercice de pensée, libérer nos imaginaires pour nous projeter en 2030 glorieuse. Les personnes qui nous écoutent sont encore collées à ce présent de 2021, donc nous parlons, nous, au présent de 2030 glorieuse pour leur raconter à quoi ressemblent nos vies et ce que nous voyons. Et la première question que je voulais te poser, c'est toi, en 2030 glorieuse, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce qui te marque?
C'est la possibilité de facilement réparer un objet. La possibilité de facilement faire réparer son grille-pain, d'avoir un centre, un réparateur, d'avoir un service de réparation, pas loin. Payant, gratuit, peu importe, mais en tout cas, la possibilité de ne pas jeter et de faire réparer. La possibilité de s'impliquer aussi. Je suis curieux, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir. C'est ouvert, j'y vais, je donne un coup de main, je m'assois à côté d'un réparateur qui m'explique, ou alors j'observe ce qu'il fait et puis je comprends un petit peu comment fonctionne un objet. Ça démarre par l'alimentation électrique et puis ça passe par là et puis il y a telle ou telle pièce qui fonctionne et ça donne tel résultat. On ne demande pas aux gens de devenir ingénieurs, on leur demande simplement d'avoir un peu de curiosité, un peu de logique et c'est la possibilité d'y accéder en 2030 et de le faire facilement. Et de le faire facilement parce qu'il faut absolument diminuer notre impact écologique en termes de déchets, en quantité de déchets. Je lisais un post d'une société commerciale il n'y a pas si longtemps, je ne vais pas citer cette société, ce n'est pas le but, mais il y a 10 ans en arrière, qui nous disait « En 2020, on a diminué la quantité de déchets. » Oui, en 2030, il faut qu'on ait diminué la quantité de déchets qu'on ait produit par rapport à celle de 2020, qui était déjà particulièrement basse à cause de la pandémie. Et ça devient urgent et il faut le faire tous les jours et il faut y penser tous les jours. Donc l'accès au quotidien à des points de réparation, des repair cafés locaux, des bricothèques, la possibilité d'emprunter un outil et de pouvoir tous les jours le faire.
On va y venir justement, Gilles, parce que là du coup toi tu nous parles de la réparation, effectivement c'est déjà un peu la fin on va dire du cycle de l'objet et moi ce qui m'intéresse parce que à l'heure où on est en train de s'enregistrer, on est quand même au Viva Technologique coincé en 2021 entouré de voitures autonomes et de machines qui ressemblent à des chiens et qui sont capables de se déplacer toutes seules grâce à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, bref, mais en fait en 2030 glorieuse on a réussi à remettre la technologie au service d'une humilité auprès du vivant, parmi le vivant et au service du vivant. Et ça, en fait, c'est à la construction, à la fabrication et puis ensuite à la vente ou en tout cas à la distribution que tout a été revu.
Parce qu'aujourd'hui, on a imposé aux constructeurs donc de d'appareils électroniques, les évolutions des smartphones qu'on va connaître aujourd'hui ou les objets connectés, on leur a imposé d'avoir une construction modulaire qui permet au moins de remplacer des pièces. de mettre à disposition les pièces, de donner les schémas de réparation, d'avoir des circuits qui permettent de récupérer les pièces endommagées qui ont été justement remplacées parce qu'on a une approche modulaire de la construction de tous ces objets. D'avoir aussi une capacité à fournir les pièces, à fournir les différents schémas de démontage, et puis de passer d'une vision simplement d'optimisation de la production et donc du coût de production à un service aux particuliers et d'intégrer en fait les coûts cachés qui sont au-delà de la vente de l'objet.
Et là, tu touches du doigt à un sujet qui est passionnant et qui montre que le revirement, il a été total, puisqu'avant, les entreprises, elles nous vendaient des objets toujours plus vite, toujours plus chers, pour en fait continuer à faire tourner cette grande roue de la croissance. Aujourd'hui, c'est pas qu'il y a plus de ventes du tout, mais les ventes, elles ont été largement remplacées par le service de location notamment. Et donc, du coup, une entreprise qui loue un objet, ça lui oblige à avoir des objets beaucoup plus solides, beaucoup plus facilement réparables et d'avoir au cœur de la stratégie une durée de vie de cet objet la plus longue possible. Ça change tout, ça aussi.
Oui, en partie. Et c'est là aussi où l'avenir nous a révélé des choses comme la diversité. Il n'y a pas une solution unique. Il n'y a pas que la location, il n'y a pas que la vente, il n'y a pas que la réparation par des bénévoles. Le fait de louer et d'avoir en fait des services après-vente éventuellement sous-traités par ces loueurs permet justement de prolonger la durée de vie et de rationaliser déjà dans la conception de l'objet le fait qu'il soit réparable à la base. Hein.
C'est des milliers d'emplois en plus.
C'est des milliers d'emplois en
plus.
Tous
ces réparateurs.
Mais c'est également la reconnexion des gens entre eux. C'est de vraiment se dire, je suis responsable de ma consommation. La consommation n'est plus en fait un acte que l'on fait sans réfléchir, que l'on fait sans se demander, je fais quelque chose, quel est le coût, quel est l'impact, qu'est-ce qui va se passer. On a aujourd'hui des hivers particulièrement froids, on voit l'impact sur nos infrastructures, simplement des épisodes orageux très, très violents. Est-ce qu'on a la capacité dans nos immeubles de ne pas se retrouver les pieds dans l'eau dans nos appartements? Aujourd'hui en 2030, simplement parce que le réchauffement climatique cause des épisodes météorologiques violents.
Donc tu veux dire que ce qui, en fait, au-delà d'apporter une seule réponse technologique, il y a aussi la création de liens et les communautés qui sont beaucoup plus fortes. Hein.
Et la reconnexion donc des individus en tant que communauté, leur responsabilité dans leur comportement au quotidien en tant que consommateur. On ne peut pas s'empêcher de consommer. On en a besoin. On a besoin de se nourrir, on a besoin de se loger, on a besoin d'un certain nombre d'outils pour pouvoir... on a besoin d'un lave-linge, c'est indispensable aujourd'hui. Sinon, on n'a pas le temps de à la fois avoir un travail et un revenu. C'est aussi cette reconnexion-là aujourd'hui, c'est d'assumer et d'aller au bout de la démarche, de la responsabilité en tant qu'individu, en tant que consommateur, mais dans une vision collective de cette responsabilité.
Donc, c'est-à-dire que
je parle du partage, je parle de la possibilité de s'impliquer, du fait aussi qu'il y a un système de support, d'entraide, de services disponibles, que ce soit le choix entre la location, l'achat pur, la disponibilité des ateliers de réparation, des repair cafés locaux ou plus événementiels, le fait de pouvoir s'impliquer comme réparateur, de dire « je suis volontaire, je veux faire quelque chose », eh bien, on vous apprend, on a des associations. Et
justement, tu parles d'apprentissage, là, je voulais évoquer ça avec toi. Le fait que, en fait, il y ait aujourd'hui une vraie éducation à la consommation à l'école. Aujourd'hui, il y a une matière qui est la matière de la consommation durable, et où on fait visiter justement les enfants. Tu parlais à l'époque du fait qu'on ne savait pas où allaient nos objets, où ils étaient créés. Donc aujourd'hui, on a des visites d'usines, on a des visites d'usines de démantèlement aussi, d'enfouissement. On voit la fin de vie, enfin en tout cas l'entièreté de la vie. Tu l'as vu, des élèves qui viennent dans les repair cafés se former à la réparation pour voir un peu comment tout au long de notre vie on peut être beaucoup plus proactif plutôt que d'être passif à cette surconsommation qu'on nous a trop longtemps imposée.
Et ce rapport entre le prix et la valeur, c'est-à-dire conserver une valeur à l'objet et le fait d'autonomiser les gens aujourd'hui très facilement. Vous ne savez pas recoudre un bouton ? Pas de souci. Passez une demi-heure au Repair Café, une personne va vous montrer, vous allez prendre pour la première fois une aiguille dans vos mains, vous allez voir que c'est pas très cher, une aiguille, du fil, vous faites une petite trousse ou une petite boîte à couture, et puis voilà, vous êtes autonome sur ça, et de toute façon, il y aura toujours des boutons à recoudre. Il y aura toujours une fermeture éclair à réparer. Et c'est là où on va connecter la question individuelle et la responsabilité individuelle avec ce mouvement collectif, c'est-à-dire d'être dans une responsabilité d'ensemble. Parce que le déchet, ce n'est plus le mien, c'est terminé une fois que je l'ai jeté. Le problème ne se pose pas au moment de jeter. Le problème se pose au moment d'acheter, au moment de consommer.
Et même de produire.
Et au moment de...
Et la responsabilité des entreprises.
À partir du moment où le consommateur, au moment d'acheter, impose aux vendeurs d'avoir produit correctement, d'avoir produit avec moins d'énergie, d'avoir aussi une autre vision du modèle commercial pour ne pas obliger au renouvellement et pousser en fait à une consommation qui vise simplement à un acte de vente, mais pas un acte d'usage.
Tu peux nous dire un peu justement comment elles ont changé les entreprises aussi dans la relation au produit, dans la relation à cette obligation de croissance. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ça ?
Alors, il y a eu un cadre législatif aussi, un cadre législatif qui a beaucoup été développé et surtout d'une façon très pragmatique. C'est pas, on n'est plus dans un monde où on se disait on fait une loi, puis après on a réglé le problème et on passe à autre chose. Là, ça a été une évolution, notamment avec les premiers indices de réparabilité qui ont évolué notamment avec l'impulsion de l'AFNOR et qui aujourd'hui sont vraiment plus dans la vision. On veut vraiment réguler la consommation et la production et son impact énergétique à la production, mais également au niveau des déchets. Et c'est une obligation. Dans le sens où agir individuellement, c'est bien, mais il faut agir dans un cadre et avoir des repères. Et c'est ces repères-là qui nous permettent d'être efficaces collectivement. Et ça, sans ça, on n'aurait pas pu arriver en 2030 sur de la réparabilité, de l'accès à la réparabilité, ne pas se cacher derrière les logiciels pour dire il y a de la propriété intellectuelle, on ne peut pas ouvrir ça. Ben non, on peut ouvrir ça. Non seulement on en a le droit, mais on en a aussi le devoir, parce qu'à partir du moment où on ne peut pas le faire, on ne peut pas y accéder, bien, les conséquences doivent être gérées.
J'ai l'impression qu'il y a 10 ans en arrière, et même longtemps avant, on nous promettait cette ville ultra connectée à la Blade Runner. J'ai l'impression quand même que les 2030 Glorieuses, elles tendent plus vers la low-tech que le high-tech. Hein.
C'est-à-dire que la technologie sera plus ciblée. Avoir un grille-pain connecté, on a abandonné cette idée. À quoi ça sert ?
J'entends que tu dis qu'en fait, ce ne sera plus une fin, ce sera seulement un moyen.
C'est ça. C'est-à-dire que la technologie, elle doit aller au bon endroit pour servir un usage. Et pas simplement être un argument de vente en disant c'est le dernier outil à la mode.
Pour créer de nouveaux besoins complètement inutiles.
On l'a vu à un certain moment, on avait des tablettes qui n'étaient pas chères, qui étaient offertes, qui étaient très accessibles. Et puis après, on s'est retrouvé avec des piles et des piles et des piles de déchets. Et de déchets très polluants, très difficiles à retraiter. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible, c'est-à-dire que l'acte de vente doit être aussi un acte responsable et donc le consommateur doit avoir aussi la possibilité de faire pression sur le vendeur, sur le producteur pour dire je n'en veux pas, je ne suis pas d'accord.
Et d'ailleurs, pour revenir à toi Gilles, en 2030 Glorieuses, tu es toujours impliqué dans les Repair Café ou t'es passé à autre chose ?
Moi, je fais toujours du bénévolat, je suis toujours actif. Je suis passé sur des activités, notamment des activités en lien avec ce que j'ai toujours aimé, c'est faire du social, c'est accompagner des gens, c'est donner du temps avec mes capacités, avec mes limites, avec mes compétences. Hein, mais toujours m'impliquer, toujours avoir envie de donner, parce que donner, c'est aussi une façon de recevoir pour moi, c'est une façon de... de me sentir utile. Et puis, c'est une façon d'apprendre quelque chose. Donc, faire du bénévolat, c'est pas simplement je donne à quelqu'un, mais c'est aussi je reçois quelque chose, j'apprends quelque chose et je nourris ma curiosité. Et je peux évoluer, je peux continuer mon chemin, je peux continuer mon parcours parce que j'ai rencontré quelque chose, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu quelque chose en plus dans mon parcours.
Bah justement, ce quelque chose en plus dans ton parcours, moi j'aimerais bien qu'on arrive à tendre un peu la perche aux personnes qui viennent de nous écouter pendant 45 minutes sur comment on continue à faire évoluer leur parcours de retour en 2021, si on veut que les gens elles marchent vers ce futur où la technologie aura été remise à sa juste place pour servir l'humilité de l'espèce humaine qui va être plus que nécessaire. Qu'est-ce que tu suggérerais comme première action, comme nouveau pas pour les personnes qui nous ont écoutés?
Moi je dirais qu'on n'est jamais trop nombreux. Il y a de la place pour tout le monde. On n'a jamais trop de bénévoles, on n'a jamais trop de bonne volonté. Il ne faut jamais se brider de vouloir agir, de vouloir faire quelque chose. Il faut le faire avec une certaine humilité, mais en même temps s'impliquer. Et ça, c'est essentiel. Peu importe les problèmes qui sont face à nous, on est dans la même barque et on doit ramer dans le même sens. Donc, il faut contribuer. Et ça, c'est ça qui est le plus important, à mon avis. C'est de ne pas se dire... je ne sais pas faire, je ne peux pas faire, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie. Il faut y aller, il faut s'impliquer. On n'est jamais trop nombreux, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un besoin, il y a toujours la possibilité de trouver la place pour quelqu'un.
Et pourquoi pas en poussant la porte d'un Repair Café alors ?
Tout à fait, un Repair Café local, de s'impliquer aussi en tant que bénévole, pas forcément réparateur, et puis de voir aussi comment on répare, et puis se dire bah, j'ai envie de réparer, ou de se dire ah non, ça c'est pas pour moi, mais par contre je suis tout à fait volontaire pour aider, pour donner un coup de main, pour aider à l'organisation. On a jamais trop de monde.
Merci Gilles.
Merci à vous.
Et voilà, ça y est, cet épisode avec Gilles Renaud vient de se terminer. Je savais que l'exemple du Repair Café allait nous permettre de partir dans plusieurs directions parce que, on l'a dit, hein, les objets prennent trop de place dans nos vies. On ne sait pas comment les réparer, on ne sait plus vraiment comment les utiliser, ni vraiment pourquoi on les a laissés rentrer dans nos vies. Parce qu'on se pose la question même de leur utilité parfois, mais il faut les avoir, il faut les laisser rentrer, il faut dépenser des sommes folles. Donc là, il y a quelque chose à largement revoir. Et puis aussi, de reprendre les objets, non pas comme une finalité, mais comme un moyen, et comme le fait le Repair Café, d'utiliser ce moyen pour créer d'autres choses. Et d'une, la transmission de connaissances, la fierté de réussir à acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences, mais aussi le prétexte pour créer du lien entre les êtres humains, qui finalement est quand même ce qui fait fonctionner et vibrer notre société, vibrer nos vies aussi. Et là, avec les Repair Café, on voit ces maillages qui se recréent entre les générations, entre les catégories socio-professionnelles. Et puis voilà, on assiste à cette revalorisation du bricolage. Hein. Il y a plein de bricoleurs qui étaient un peu isolés dans leur coin à retaper et à refaire vivre tout un tas d'objets. Et maintenant, j'ai l'impression quand même qu'il y a un intérêt de plus en plus croissant pour ces questions, qui montre qu'on a envie de faire des choses avec nos mains et que c'est plus en plus bien vu d'acheter d'occasion, d'entretenir, alors qu'avant, offrir même un cadeau d'occasion, c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très, très mal vu. Donc là, il y a, dans l'exemple de Gilles, dans son expérience, dans tout ce qu'il nous a partagé, il y a quand même, en fait, en filigrane, le sentiment que la société est en train d'évoluer par rapport à ça, et je l'espère, réussira à remettre l'objet vraiment à sa place pour forcément limiter tous ces dégâts, et notamment écologiques. Voilà, je suis très content en tout cas de cet échange, j'espère qu'il vous a inspiré, j'en suis même persuadé, et j'ai forcément hâte de vous faire découvrir de nouveaux parcours dans les prochains épisodes de 2030 Glorieuse. Allez, salut!
Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !